je vais vous proposer de faire le test de cocologie. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Mais oh putain. Oh mon dieu, quelle horreur. Généralement, on pense que je suis sunnite d'ailleurs, parce que c'est un prénom plutôt très arabe, qui peut être tiré de l'islam, mais ce n'est pas le cas. Une pudeur dans la famille, surtout moi quand je raconte les parents. C'est compliqué de raconter ses parents, surtout quand ils sont encore vivants. Je sais qu'il y a une histoire d'un cousin qui est le cousin de ma mère qui a commis des massacres. Et voilà, ça c'est un détail en particulier qui chagrine ma mère.
Deviens ingénieur, avocat, médecin. Arrête tes conneries quoi. Voilà. Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose d'illégal?
Quand t'annonces à tes parents que t'as gagné ce prix-là, c'est merveilleux pour eux, je crois. Et c'est merveilleux pour moi aussi, parce que je pouvais pas faire mieux.
Aujourd'hui, je reçois un artiste accompli qui manie brillamment les images et les mots puisqu'il s'exprime à travers la littérature et la photographie. Avec sa plume, il décrit une réalité trop souvent cachée. Une réalité qu'on ne retrouve pas dans les manuels d'histoire, mais qui fait pourtant partie du quotidien de millions de personnes. Toutes les victimes anonymes de la guerre. D'abord Le Nez juif, puis Beyrouth entre parenthèses. Son dernier ouvrage, Beyrouth sur scène, vient clôturer cette trilogie, un roman salué par les critiques littéraires et récompensé par le prestigieux prix Goncourt des lycéens. C'est un roman autobiographique, brut, drôle, attendrissant. 300 pages qui nous font passer du rire aux larmes. Ce récit est avant tout un hommage à ses parents, imbriqués dans l'histoire tumultueuse et douloureuse du Liban, écrit avec beaucoup d'humour, car l'humour est la politesse du désespoir. Écrivain, chroniqueur littéraire, photographe et commissaire d'exposition à ses heures perdues, celui qui souhaite un jour devenir silencieux comme son père est mon invité aujourd'hui et espérons qu'il soit encore un peu bavard. Sabil Ressoub, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci pour l'invitation.
Ça fait très plaisir en tout cas de vous recevoir. Comment vous allez aujourd'hui?
Ça va, très bien.
Vous êtes dans quel état d'esprit pour cet entretien?
Très bon état d'esprit, comme avant chaque entretien.
Oui, c'est vrai. Vous avez plutôt l'air de quelqu'un d'optimiste et de positif.
En tout cas, en entretien. Je ne sais pas si tous les jours, c'est la même chose.
C'est vrai? Alors, j'ai une première question. Ça veut dire quoi? Que signifie votre prénom, Sabil?
Ça veut dire la source, le chemin. C'est un prénom arabe assez méconnu. Et c'est vrai que mon père, qui est poète et qui voulait être poète, a donné des prénoms comme ça assez méconnu à ses enfants, et donc voilà, Sabil, ça veut dire la source, le chemin. Généralement, on pense que je suis sunnite d'ailleurs, parce que c'est un prénom plutôt très arabe, et qui peut être tiré de l'islam, mais ce n'est pas le cas, mais donc voilà.
D'accord, en effet, c'est très poétique, mais il me semble d'ailleurs que votre papa ne voulait pas forcément avoir un garçon au départ.
Il voulait avoir une fille, oui, c'est ce que je raconte.
Ça va, vous le vivez bien du
à
coup
quel point... Non mais je le comprends. Je comprends, c'est fatigant un garçon.
C'est fatigant.
Très fatigant. Ouais. C'est un drame absolu. Mais dans le roman, voilà, j'ai un peu remédié à son problème. Il a eu enfin une fille. Mais le recueil dont je parle dans le livre qui s'appelle Yala, il l'a vraiment écrit. Donc j'imagine que quand il a eu deux garçons, il s'est dit il faut que je fasse quelque chose pour avoir une fille. Donc il a écrit un recueil de poésie qu'il a titré du nom qu'il aurait voulu donner, je crois, à sa fille.
D'accord. Donc en fait, vous lui avez donné une fille dans votre roman.
Ouais.
Il en a pensé quoi alors? Est-ce que c'est une fille qui est à l'image de ce qu'il se fait, de ce qu'il s'imagine?
Je sais pas trop, non, mon père n'aime pas du tout la mer ni l'océan, donc avoir une fille surfeuse, je sais pas si ça lui plaisait beaucoup.
Surfeuse et influenceuse.
En plus, oui, ça doit pas le soit, je crois qu'il s'en moque. Mais non, je sais pas, je crois que ça le fait rire. Là, il est en train de traduire le livre en arabe, donc il est en train de traduire justement cette fille qu'il n'a pas eue en arabe.
Ah.
Et donc non, je crois pas que ça le dérange, je crois que ça l'amuse plus qu'autre chose.
Donc là, il est en train de traduire votre livre, ouais. Beyrouth sur scène, en arabe.
Ouais, c'est lui qui le traduit en arabe, on l'a signé avec une maison d'édition libanaise, donc pour le monde arabe, et c'est lui qui est en train de le traduire.
Ah, c'est génial.
Ouais. Oui, j'ai l'impression que la boucle est bouclée comme ça.
Ouais, totalement.
Comme c'est une histoire que je raconte où voilà, c'est un homme qui voulait être metteur en scène, etc. Et la guerre l'en a un peu empêché d'une certaine façon. Et donc j'écris ce livre pour lui rendre hommage et le fait que ça soit lui qui le re-ramène au Liban, qui le re-ramène dans le monde arabe, ce livre à travers sa plume, à travers sa traduction, je trouve ça assez juste comme parcours.
Bah, du coup, ça veut dire qu'il le lit vraiment de manière très sérieuse, très minutieuse. Il le décortique pour pouvoir le traduire.
Oui.
Est-ce qu'il est d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce livre?
Alors d'accord, je sais pas. C'est une bonne question. Non, il y a des choses de temps en temps qu'il comprend pas, je crois. Donc il m'appelle parfois maintenant pour me demander, mais ça veut dire quoi, ça, qu'est-ce que c'est, pour bien comprendre ce que je voulais dire. Non, il dit rien, il le fait très. Non, il le fait très bien, je crois. Même s'il doit pas être d'accord peut-être avec certaines choses, mais je crois même pas que c'est une question d'être d'accord. Il sait que c'est romancé, lui-même sait ce qui est vrai et faux dans sa vie, dans cette histoire-là. Donc je pense qu'il arrive à prendre la distance par rapport à la réalité et la fiction de l'histoire. Personne d'autre que lui peut savoir à quel point ce que je raconte est vrai ou faux.
C'est vrai.
Donc,
c'est vrai. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme de pudeur entre vous dans votre famille.
Oui, une pudeur dans la famille, peut-être aussi dans... Surtout moi, quand je raconte les parents. C'est compliqué de raconter ses parents, surtout quand ils sont encore vivants. Surtout
vous
quand
avez beaucoup hésité
rendre...
aussi hein, à les interviewer pour écrire ce livre, à leur ouais. poser des questions. Donc j'ai senti quand même une certaine pudeur par rapport à ça.
Ouais, non, vous avez raison. C'est compliqué de poser la première question. Je sais que j'y suis retourné plusieurs fois avant d'oser demander à mon père tout simplement comment t'es arrivé à Paris. Ce qui en soi est surréaliste, c'est une question totalement banale. Mais comme il m'avait jamais rien raconté, que j'avais dépassé l'âge de 30 ans... Je me disais que peut-être il avait pas envie de me le raconter, ou que peut-être j'étais pas légitime de poser cette question, ou au fond qui j'étais pour poser cette question-là, parce que lui viendrait pas me poser une question sur ma vie comme ça aussi facilement. Donc il y a cette question-là, puis la pudeur. Je sais pas si c'est de la pudeur, c'est un mélange de respect mêlé à non, je crois que c'est quelque chose. Je suis respectueux de leur histoire, respectueux de ce qu'ils m'ont raconté, respectueux de ce qu'ils m'ont offert de leur vie pour pouvoir écrire un livre. Donc à partir du moment où ils me font ce cadeau de me raconter leur vie pratiquement ouvertement enregistrée, quand je viens la raconter, oui, il faut garder une certaine distance, il faut se remettre à sa place en tout cas.
Alors, c'est vrai que je parle de pudeur, mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'en lisant le livre, moi je trouve que vous mettez quand même pas mal de choses intimes, notamment au sujet de vos parents, des membres de votre famille, je ne sais pas ce qui est romancé, ce qui est vrai, mais il y a quand même cette balance entre la pudeur et quand même on donne des petites choses intimes.
C'est ce qui m'intéresse le plus dans la littérature, les petites choses intimes, les détails, les petites choses de la vie. Je trouve que ça raconte beaucoup plus de choses que les grandes phrases.
C'est vrai.
Dans une rencontre, là, justement, il y a 4 jours, la femme qui m'interrogeait disait justement le pyjama de mon père que je décris au début, le fait qu'il soit, voilà, que ce soit le même pyjama qu'il a acheté au Liban, qu'il soit trop court, qu'il ait recousu, que cet objet il le garde depuis tant d'années. De commencer le livre par cette histoire là ça raconte tellement plus ce que c'est l'exil, ce que c'est la distance par rapport au pays, que plein de phrases que j'aurais pu raconter, que j'aurais pu écrire. Mais oui, non, c'est ça. Non, c'est les détails. Il y a que ça qui est intéressant, je trouve, dans la littérature. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, dans la littérature. C'est les petits détails. Alors, effectivement, sur la famille, j'ai raconté des choses qui sont vraies, qui sont fausses, qui peuvent parfois embêter. Je sais qu'il y a une histoire d'un cousin que je raconte dans le livre, qui est le cousin de ma mère, qui a commis des massacres. Et voilà, ça, c'est un détail en particulier qui chagrine ma mère. Quand elle le lit, quand on en parle, même si je suis pas le premier à en parler, il y a plusieurs livres qui ont écrit sur ce sujet-là, sur ce massacre-là. Mais c'était trouver aussi la distance. Je crois qu'il n'y a pas un moment où, en tout cas sur ces histoires-là, on a l'impression que je juge vraiment les personnes. C'est juste que j'essaie de comprendre comment moi je reçois les informations sur cette famille-là et sur cette guerre-là tout au long de l'histoire.
Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de trembler un petit peu au moment de l'écriture? Parce que c'est pas facile quand même, hein, de donner des détails comme ça, surtout quand il s'agit de sa famille et de ses propres parents.
La fiction permet quand même de sortir de certains détails.
D'avoir cette distance.
Oui, voilà, il y a une distance. Il y a des moments où tu n'as pas envie de raconter quelque chose, tu pars sur autre chose ou tu t'appuies sur un autre point. Et après, trembler, je ne sais pas si c'est trembler, mais se poser beaucoup de questions, oui, à chaque fois.
Parce que moi, face à votre maman, excusez-moi, je tremble. Je me dis, oulala, si j'écris...
devant mon père, je crois.
C'est vrai? Ah, la maman quand même, Anan, si j'écris quelque chose qui n'est pas bon, à mon avis... Elle risque de vous remettre un petit peu à votre place,
je crois que j'ai pensé comme vous. Et puis finalement, c'est le contraire. C'est plus le père qui vient chercher dans les détails. Mais c'est vrai que j'ai pensé comme vous au début. Il ne fallait pas trahir ce qu'elle pense, ou en tout cas ce auquel elle croit. Mais j'ai perdu le sens de la question.
Est-ce que vous avez tremblé à un moment donné en écrivant, quoi?
Mais en tout cas, oui, j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai eu beaucoup de doutes sur ce que je racontais, sur ce que je pouvais dire, sur comment le dire, sur comment le raconter, même sur la guerre du Liban, ce qu'il fallait mettre ou ce qu'il fallait pas mettre. Non, il y avait des doutes à chaque moment de cette histoire-là, ouais, bien sûr.
Alors Sabile, moi, j'ai pour habitude de commencer tous mes entretiens avec la même question.
Oui.
Pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin?
Ben ça, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis jeune. Depuis que je suis au lycée, je savais que je voulais faire de l'art, je savais pas quoi exactement. Au début, je voulais faire peut-être un peu de photo, puis du théâtre, puis du cinéma. Et j'ai essayé un peu tout, j'ai travaillé un peu dans tous les domaines. Et d'ailleurs, tous les domaines me passionnent les uns autant que les autres. Et j'ai travaillé aussi dans la photo pour finir par écrire, principalement en tout cas. Et je sais pas ce qui m'anime. J'aime ça, c'est ma passion. Ma compagne qui vit avec moi, elle le voit. Je suis passionné. H24, je me réveille le matin, je lis, je travaille, je m'endors, je continue. Je suis tout le temps accroché à ça, à la culture, à l'art. Je sais pas quel mot on peut employer pour englober tous les arts, mais Mais oui, c'est des mots qui sont très que j'aime pas trop généralement, mais c'est vrai que je préfère dire les livres, le cinéma, la photographie.
Pourquoi voilà. Vous n'aimez pas ces mots?
Je sais pas, je trouve que c'est des mots qui veulent tout et rien dire. Mmh. C'est un peu trop gros et puis ça emmène trop, c'est presque trop politique comme mot, la culture, alors que je trouve que les livres, le cinéma, c'est déjà un peu plus réel, on va dire. Mais ça je sais pas, c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Je crois que je pourrais pas vivre sans faire ça. Je serais incapable de faire autre chose. Peut-être je peux faire autre chose qu'écrire. Je peux organiser des expositions, je peux m'occuper d'un festival de cinéma. Mais voilà, faut toujours qu'il y ait un lien avec une manière de transcender la vie, de la raconter autrement, de ou que ça soit mon regard sur la vie qui est différent, ou de mettre en avant le regard d'autres artistes sur la vie, sur le monde, sur ce qui se passe autour de nous. Je sais pas, ça m'habite. C'est une façon de vivre la vie, je crois, de la supporter aussi un peu. C'est une fuite. Là, la culture, regarder un film, c'est fuir le monde réel. Écrire une histoire de fiction, c'est fuir le monde réel. Enfin, tout ça, ça permet de mieux accepter le monde, je crois.
Et j'ai l'impression que l'art, c'est aussi un peu dans les gènes de la famille Rousseau. Hein, quand on voit votre père, votre mère, ils sont quand même aussi beaucoup dans les métiers artistiques, dans la culture, même si vous n'aimez pas vraiment ce mot. Vous ne pouviez pas faire autrement, finalement.
Oh si, je crois qu'on peut toujours faire autrement, mais c'est vrai que moi ça a été comme ça, c'est même les parents, même la famille, les oncles qui ont une librairie, enfin oui j'ai baigné dedans, j'ai baigné autour des livres, mon père a toujours été entouré de livres, il l'est encore, il adore le théâtre, ma mère est toujours allée beaucoup au cinéma, c'est elle qui m'emmenait d'ailleurs quand j'étais enfant voir des films, oui j'ai baigné dedans, alors après je pense qu'il y a des gens qui baignent dedans et qui font complètement autre chose, moi c'est vrai que je dis ça parce que mon père l'autre fois m'a dit, tu sais pas, tu pourras peut-être avoir un fils financier, t'en sais rien de comment il finira ton fils, et c'est vrai, peut-être c'est tu vrai. Peux avoir un fils avec qui tu grandis avec plein de livres et il va se dire justement je veux plus jamais voir de livres de ma vie. mais c'est vrai que moi ils m'ont jamais rien imposé à ça, c'est même plutôt le contraire, quand j'ai voulu faire de l'art on m'a dit non on veut pas que t'en fasses, fais des études sérieuses, enfin ce qu'on appelle sérieux, fais des études
ce qu'on dit un petit peu dans toutes les familles libanaises hein.
Ouais
ou
ouais,
du Moyen-Orient d'une manière générale, deviens ingénieur, avocat, médecin. Arrête tes conneries
quoi. Voilà, donc moi c'était plutôt avocat. Voilà, c'était plus ce genre de métier. Voilà. Mais donc voilà, ils m'ont pas poussé à ça. Le fait de pas pousser à ça, mais de vivre autour des livres, de la musique, du cinéma, peut-être ça m'a poussé indirectement à devenir ça. Mais après, je crois beaucoup que c'est lié au caractère des personnes.
C'est vrai, aux personnalités, oui.
Oui, il y a beaucoup de... Je connais quand même pas mal d'écrivains et de peintres qui viennent de familles justement pas du tout, j'allais dire cultivées, ou en tout cas, ils n'ont pas baigné autour des livres et des toiles de peinture, etc. Et pourtant, ils finissent par faire ça parce qu'ils ne pourraient pas faire autre chose. Donc, je crois que c'est beaucoup lié aussi au caractère. Je crois que très jeune, je crois que les profs le voient. Je pense que les profs...
Ouais. Les bons profs, en tout cas.
Ouais, les bons profs, et il y en a quand même. Je pense remarque très vite quand ils ont des élèves qui finiront ou artistes ou un peu différents ou
ça
un
a
peu
été
décalés.
Votre cas, vous avez un professeur qui vous a dit justement étant enfant, à toi Sabine, tu feras sûrement un métier artistique, est-ce que tu pourrais peut-être te diriger vers telle ou telle branche?
Je l'ai pas reçu comme ça directement, mais je l'ai vu après là en faisant des rencontres justement dans des lycées, dans des collèges, et en écoutant les profs un peu comment ils me parlaient, ils me présentaient leur classe et leurs élèves, en me disant tu verras, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ci. Je remarquais qu'en fait, c'est vrai qu'ils pointaient souvent ceux qui avaient quelque chose d'un peu différent. On sentait que leur parcours va être mené par quelque chose de particulier. Et c'est comme ça que j'ai remarqué que finalement, ils ont souvent l'œil. Mais je crois pas qu'ils le disent aux élèves. Ils le disent à moi, parce que moi je vais intervenir à côté, je pose des questions sur leurs élèves. Je crois que c'est étrange de quand t'es prof d'aller dire à ton élève oui toi tu finiras artiste, enfin je crois qu'on peut pas leur dire ça, c'est trop engageant de la part d'un prof de dire ça à un élève, mais peut-être ils le font sentir maintenant avec le recul, je me dis oui il y a des profs qui en tout cas qui me parlaient en me faisant comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu différent, mais c'était vraiment très c'était très subtil en tout cas.
Quand on est écrivain, quand on est photographe, quand on fait un métier artistique, on a une vie qui est quand même différente de la plupart des gens. Parce que c'est une vie qui est un peu hors norme, en fait. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas le même emploi du temps, on n'a pas les mêmes activités, on n'a pas la même façon de travailler, tout simplement. Mmh. Est-ce que c'est un mode de vie qui vous plaît, vous?
Oui, parce qu'on est à contre-temps. On est à contre-courant, mais il y a un exemple très simple. Généralement, quand j'ai une vie comme là, maintenant, par exemple, où c'est vraiment... l'agent d'entretien avec vous. Enfin voilà, le calendrier est très très aléatoire. Ben, je prends le métro à des heures très différentes que les gens qui le prennent aux heures de pointe. Mmh. Et donc j'ai une relation par exemple au métro qui est très différente. C'est-à-dire que moi quand j'y vais, il y a moins de monde, donc en fait ça me dérange moins souvent. Ou j'ai le temps d'observer les gens. C'est-à-dire que la temporalité est différente. Et c'est vrai que sur toutes ces choses-là du quotidien, oui, je crois que le métier d'artiste ou en tout cas le métier d'indépendant, je dirais, permet d'avoir cette vie à contre-courant. Et c'est très bien quand on est artiste d'avoir une vie à contre-courant. Enfin, justement, il faut avoir un regard qui vient apporter un autre regard sur la vie, sur le monde. Et après, sur les horaires, etc., non, par contre, je crois que vraiment sur... moi, quand j'écris ou je travaille sur, je sais pas, une exposition, etc., c'est quand même très... c'est comme des heures de bureau. Mmh. Surtout que depuis que je suis en couple, c'est vrai que c'est... Ça, et elle a un travail plutôt classique de bureau, donc... Donc en fait, je finis par, voilà, je me réveille très tôt le matin, je travaille, il y a la pause déjeuner, puis je retravaille, puis vers 19h, quand elle finit, j'essaye de finir. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais seul, parce que oui, tu finis par bosser jusqu'à minuit, 2h du matin. Mais c'est vrai que là, moi, je me suis cadré dans quelque chose d'assez, d'assez rythmé. Je crois que chaque écrivain, chaque artiste arrive à avoir son rythme propre. Moi, j'aime bien ça, parce que ça me rassure, je crois. C'est-à-dire que le métier est tellement... c'est tellement, ça part tellement dans tous les sens, et dans ma tête, et dans ce que je veux faire, et dans ce que j'écris, et dans tout ce qu'il y a, qu'en fait ce cadre-là, le fait de me cadrer un minimum me permet justement de pouvoir resserrer mon temps et de travailler sérieusement, on va dire. Si j'étais aussi foutoir que les idées dans ma tête, je pense que c'est très difficile de produire quelque chose.
Exactement. Donc, ouais, pour produire, c'est important d'avoir un cadre, en fait.
Ouais, je crois que chez beaucoup d'artistes, je le vois quand je relis un peu. Je pense aux peintres, je regarde souvent comment les peintres travaillaient, et c'est vrai qu'ils ont quand même quelque chose d'assez... c'est très fixé, quoi, très figé.
J'ai beaucoup étudié là-dessus parce que c'est quelque chose qui me fascine. Et en réalité, les plus grands artistes de ce monde ont une routine créative. Donc, comme vous, hein, ils se réveillent tous les jours à la même heure. Mmh. Ils font souvent la même chose, d'ailleurs, le matin. Ils savent aussi quel est leur pic de créativité. Ouais. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, le soir? Et ils ont vraiment des emplois du temps qui se ressemblent finalement à une certaine routine qui leur permet d'être créative. Ouais. Ça peut paraître paradoxal, mais en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir ce cadre pour faire fonctionner notre cerveau correctement, en fait, et pour pouvoir être capable de produire, comme vous le disiez.
Oui, ça fixe un cadre, ça repose l'esprit.
Exactement.
On est obligé de faire ça, comme ça on ne pense pas à comment on va travailler, à quelle heure on va le faire. Voilà, les choses sont fixées, et ça permet justement d'avoir l'esprit plus libre pour divaguer sur l'art qu'on veut créer.
Mais justement, vous, Sabile, comment vous travaillez? Est-ce que vous avez l'habitude d'écrire à certains moments de la journée? Est-ce que vous vous isolez pour le faire? Comment ça fonctionne?
Le matin, moi, c'est surtout le matin. Vous parliez du pic, moi, c'est le matin. Je pense que quand je me réveille, oui, voilà, avec le café directement, je commence à écrire. Là, pendant 2-3 heures, ça se passe très bien, généralement.
Sur votre ordinateur?
Oui, sur l'ordinateur ou sur des cahiers ou sur l'élément sur lequel je travaille sur le moment. Mais c'est plutôt le matin. J'ai besoin d'être un peu isolé, j'ai besoin de silence. Je peux pas bosser dans un café, c'est impossible. J'écris pas une ligne. J'ai besoin d'être chez moi, sur un bureau, mon bureau en particulier. Ça peut être celui d'un peu à côté, mais c'est très rare même que je me dépasse sur le canapé pour travailler, ou sinon c'est pour regarder l'extrait d'un documentaire, d'un film ou lire un livre. Mais sinon, c'est plutôt sur ma table avec l'ordinateur, les cahiers autour. J'aurais du mal à travailler en voyage. Je sais que quand j'ai écrit le deuxième livre, raconte l'histoire d'un voyage en Israël, j'ai rien écrit quand j'étais en Israël, c'est quand je suis revenu. C'est toujours quand je reviens, alors après on peut prendre des notes, etc.
C'est ce que j'allais dire, oui, vous êtes obligé de prendre des notes quand même.
Il y a des notes, et encore pas tellement. J'aime bien garder le souvenir de... Oui, garder en tête ce qui me reste après le voyage, ce qui a été essentiel, ce qui est vraiment important. Moi, j'aime bien laisser passer un peu de temps avant d'écrire.
Ouais.
Sans avoir
macérer un petit peu, laisser macérer les idées, exactement, les expériences dans votre tête.
Ça permet d'aller à l'essentiel, je trouve.
Ouais. Ouais, c'est intéressant. Donc plutôt le matin. Et après, quand vous avez terminé les 2-3 heures d'écriture, vous passez totalement à autre chose.
Non, le travail se passe toute la journée. Alors après, ça dépend des périodes, si je me mets que à écrire ou si j'écris aussi des articles de journaux en même temps, si j'organise des expositions. Mais souvent, l'écriture est le matin et puis après, je commence un peu à étaler le travail. Autrement, c'est-à-dire qu'il devient de moins en moins créatif. Il devient de moins en moins créatif. Au début, ça va être vraiment quelque chose de très personnel à moi, un projet à moi. Puis après, petit à petit, je vais sur d'autres projets sur lesquels je travaille, où je peux avoir l'esprit un peu plus... j'ai moins besoin qu'il soit vide. Je peux écrire un article de presse sur un livre que j'ai lu ou sur une exposition photo que j'ai vue si je suis pris quand même par d'autres idées en même temps. Alors que écrire le livre, j'ai besoin d'avoir vraiment l'esprit assez vide, assez reposé.
C'est marrant, on a à peu près la même façon de travailler, en fait. Me rends compte de ça.
Vous aussi, vous travaillez le matin, c'est ça?
Moi, mes idées créatives sont plutôt le matin. Ouais. Elles apparaissent plutôt le matin, donc comme vous, avec... fut un temps, je buvais beaucoup de café. Aujourd'hui, je l'ai remplacé par le matcha, parce que le café, à forte dose, ça rend nerveux, c'est pas très bon pour la santé. Hein. Mais oui, comme vous, en fait, j'ai plutôt tendance à écrire les choses créatives le matin, puis après, avoir mes rendez-vous professionnels l'après-midi, par exemple, puisque je fais aussi du consulting, des choses comme ça, des conférences, à être un peu plus avec le monde social, après avoir fini ce travail créatif, en fait, pas avant.
Ouais.
C'est pour ça que je prends jamais de rendez-vous le matin, par exemple.
Ouais, je suis exactement comme vous.
Bon, bah,
je vous rejoins totalement. Et quand j'ai un rendez-vous le matin, ça me perturbe beaucoup. Dans
beaucoup.
Mon programme,
ouais. Ouais. Quand on est obligé, ça nous met un petit peu. Hein.
Ouais, c'est ça. On est là, mais comment on va faire alors? Est-ce qu'il faut
essayer de trouver comment je vais pouvoir le mettre autrement?
Ouais, c'est
vrai, c'est vrai. Bon. Est-ce que cette vie-là vous plaît?
Ah oui, je pourrais pas vivre une autre vie. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai pas du tout envie dans un bureau. Parfois, quand j'organise des expositions, j'ai des travaux comme ça où je me mêle à des gens qui travaillent justement en bureau, dans des instituts. En fait, j'adore être de passage dans ces endroits-là, mais je sais qu'au bout de 5-6 rendez-vous, je me dis heureusement que j'ai mon travail seul à la maison, en fait.
Ouais.
Non, ça, c'est vraiment un choix, ouais. Mais c'est pareil, c'est des caractères, ça.
Oui, c'est vrai.
T'as des gens qui supporteraient pas être seul chez eux tous les jours à travailler.
C'est vrai, tout à fait.
J'en
connais pas mal hein, dans mon entourage.
Ouais, j'imagine.
En fait, je pense qu'il faut être autodiscipliné déjà dans un premier temps,
ouais.
Très organisé et ne pas avoir peur justement de la solitude. Mais en tant que créatif, on n'a pas peur de ça, on aime la solitude.
Ouais.
C'est ce qui nous permet justement de nous recharger et d'avoir ces idées d'écriture ou autre. Mais c'est vrai, ça dépend vraiment des personnalités. Ouais.
Ouais.
En tout cas, j'ai passé plusieurs années moi-même en tant que salarié dans de grandes entreprises et croyez-moi, je n'y reviendrai pour rien au monde.
Ah oui, c'est vrai.
Ah non,
c'est bon, j'ai donné. Qu'est-ce qui est le plus insupportable ?
Oh, beaucoup de choses dans l'entreprise française. Il y a beaucoup de choses qui sont insupportables,
ah ouais.
Notamment la hiérarchie, par exemple. Les horaires, vraiment, on ne peut pas travailler. Si on arrive 5 minutes ou 10 minutes plus tard, on a une réflexion, ce qui est totalement absurde. Il n'y a pas cette liberté qu'on peut avoir en tant qu'indépendant.
Même
si je pense que c'est en train d'évoluer hein, dans le monde professionnel, et fort heureusement. Il y a aussi peut-être l'hypocrisie des collègues de travail. Ça, c'est quelque chose qui ne me manque pas du tout.
Je peux comprendre.
Là, au moins, on peut choisir les personnes avec qui on travaille, les personnes que l'on côtoie.
C'est vrai.
Et c'est un grand luxe, quand même.
C'est un grand luxe. C'est un immense luxe.
De s'entourer des personnes avec qui on a envie d'être.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est un immense luxe.
Alors, Sabil, vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens. Et je tiens d'abord à vous féliciter pour
ça.
C'est amplement mérité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les jeunes n'ont pas tous abandonné les livres au profit de TikTok, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, moi, c'est pas trop une inquiétude, ça. J'ai plutôt confiance aux jeunes. Alors, il y a eu des interviews TikTok hein, pendant le prix Goncourt des lycéens. Justement, c'était devenu un élément, parfois avant d'intervenir avec les autres écrivains devant les lycéens, on avait des petits entretiens TikTok comme ça. Mais je trouve que... Non, je pense qu'ils continuent à lire, ils vont continuer à lire. Moi, je suis pas trop inquiet pour la jeunesse et pour les jeunesses généralement.
D'ailleurs, il y a beaucoup de... influenceurs sur TikTok, on appelle ça des BookTok, ça ?
BookToker,
voilà.
Ouais,
de plus en plus sur cette plateforme, ce qui est plutôt pas mal aussi. Hein.
Oui, c'est une façon de parler des livres autrement, c'est juste un médium différent, mais finalement, au lieu d'en parler dans un journal, t'en parles sur TikTok, pourquoi pas ? Ils ont une autre manière de parler des livres sûrement, ils sont peut-être intéressés parfois par d'autres livres, mais pourquoi pas ? Moi, je suis pas du tout réac sur ces choses-là. Après, moi, je suis pas sur TikTok, mais moi, j'y comprends rien à TikTok, c'est pour ça que j'y suis pas.
On peut apprendre.
Oui, mais après, personnellement, ça m'intéresse pas. Je crois que c'est quelque chose de leur génération. Et voilà, comme pour nous, c'était d'autres choses, d'autres éléments. Mais c'est juste un moyen de communiquer qui est différent. Après, l'important, c'est le contenu de ce qu'on raconte dedans.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est bien, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez optimiste sur la jeunesse. Ça fait plaisir à entendre.
C'est la seule chose, je suis optimiste.
La seule chose, c'est sur la jeunesse.
Oui, j'ai toujours confiance en la jeunesse. En soi, je trouve qu'ils ont toujours raison. Je trouve qu'on est jeune, on a souvent raison.
Ouais, c'est vrai.
Il y a quelque chose en tout cas d'honnête, de sincère, d'un peu naïf, on n'est pas pris encore par la vie, enfin pas de la même façon, on n'a pas le même rapport.
On n'est pas encore conditionné.
Non, ouais, puis ils sont souvent moins réactifs que quand on commence à vieillir.
Moi, j'ai tendance à dire justement que les jeunes, en tout cas les personnes qui sont plus jeunes que moi, sont souvent mes plus grands mentors. Parce que c'est eux qui me permettent de me questionner en réalité, de me challenger. Et du coup, j'ai d'autres idées. Je vois les choses différemment grâce à eux. Et je pense que c'est quand même le rôle principal d'un mentor.
Je suis assez d'accord. Je ne sais pas si j'emploierais le mot mentor, mais j'aime bien l'idée de l'employer comme ça. C'est vrai que, si, moi j'aime beaucoup. J'ai une petite cousine à qui je parle beaucoup qui a 16 ans. Et j'adore entendre comment elle voit le monde, comment elle interagit avec ses amis, même sur les questions de genre, sur toutes les questions aujourd'hui. Je trouve qu'ils apportent des réponses. Ils sont beaucoup plus libres, à l'aise, légers sur ces questions-là. Et je trouve ça d'une grande intelligence. Alors que quand on va parler avec des gens plus âgés, c'est quand même souvent très fermé et triqué. Mais on apprend d'eux, je crois, en fait. C'est beau, le mot mentor.
Alors, concernant le prix Goncourt des lycéens, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus.
Oui.
Comment ça se passe, en fait, ce concours? Qui vote exactement?
Les lycéens, justement, ont fait, une fois qu'il y a la première liste du Goncourt qui est annoncée, donc il y a 15 livres, généralement entre 15 et 16 livres qui sont sélectionnés, on est tous inscrits automatiquement au prix Goncourt des lycéens. Et depuis cette année, au prix Goncourt des détenus aussi. On fait aussi une tournée des maisons d'arrêt et des prisons. Et donc on va, donc chaque auteur est libre d'y aller ou de ne pas y aller d'ailleurs. Et donc là, on a souvent été entre 9 et 10 auteurs à faire toutes les rencontres.
D'accord.
Et on va dans les grandes villes de France, on va donc à Paris, à Lyon, on est allé aussi vers, je crois, pas Nice, mais à côté, enfin peu importe. Voilà, on fait 7 grandes villes où plusieurs lycées sont rassemblés. Donc on part en général entre devant 150 ou 250 lycéens.
D'accord.
Qui viennent d'un peu partout de la région. Il y a autant des lycées privés que publics, des lycées techniques que généraux. Enfin voilà, c'est très large. Et on a 15 minutes chacun pour parler. Il y a un modérateur qui a toutes les listes des questions. Toutes les questions ont été préparées par les lycéens et j'imagine supervisées par les professeurs. Mais il y a un modérateur au milieu qui a toutes les questions et qui va décider de l'ordre des questions pour chacun, pour que ça soit le plus fluide possible, pour que ça se répète pas, etc. Et pendant ce temps-là, on parle. Et après, il y a plusieurs tours. Là, je vais probablement dire des bêtises parce que je me souviens plus très bien, mais je crois qu'il y a une première fois où il y a 4 livres qui sont sélectionnés, puis ensuite il y a un deuxième jury qui vote entre eux, puis un jury de 12 lycéens à la fin qui finissent par choisir le gagnant. Et je sais pas si en un tour ou deux tours, je me souviens plus très bien, mais voilà, il y a plusieurs tours après. Je crois qu'ils étaient entre 1500 et 2000 lycéens cette année à choisir de manière générale. Et il y avait des lycéens en France, il y avait des lycéens aussi d'ailleurs, il y avait un lycée au Canada, il y avait un lycée aux États-Unis, il y avait un lycée à Beyrouth, au Liban d'ailleurs cette année. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est un peu plus international.
Quel lycée à Beyrouth, vous rappelez du nom ?
Ah non, ils vont se fâcher si je me souviens plus. Si, si, le Collège protestant de Beyrouth, voilà.
Ah bah, on salue tous les étudiants voilà. Du Collège protestant de Beyrouth. Pour la première sélection.
Ouais.
Comment se fait justement cette présélection de 15 livres ? Est-ce que c'est fait par des vieux ou est-ce que c'est fait par des lycéens ?
Moi, je ne peux pas dire des vieux, ils m'ont sélectionné. Non, mais oui.
C'est moi qui le dis, voilà.
Non, c'est un jury qui sélectionne, c'est le jury du concours.
Qui sont ces personnes-là ?
Bah, c'est souvent des gens qui ont... Il y a beaucoup d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs. Il y a Souline, il y a Claudel, il y a Tahal Benjelloun, il y a Paul Constant, il y a Didier Decoing. Enfin voilà, je ne vais pas faire toute la liste. Mais donc, c'est des auteurs qui reçoivent donc, tous les livres de la rentrée littéraire.
D'accord.
Tous les romans. Ils font une sélection de ces livres-là. Comment ça se passe exactement, je pourrais pas vous le dire parce qu'en fait, on n'en a aucune idée. Moi, j'avais aucune idée que j'allais être sur cette liste-là jusqu'au jour où mon éditrice m'appelle à un midi et je répondais même pas tellement que je savais pas. Elle m'a appelé 5-6 fois et pour me dire tu es sur la liste du concours. Donc je sais pas trop après comment la sélection se fait. J'imagine que c'est des débats entre eux. Peut-être que certains ont des préférences sur certains livres et ils arrivent à les imposer. Voilà, en tout cas, c'est une première
sélection. Et c'est un jury qui change chaque année ou c'est toujours les mêmes personnes ?
Je suis pas très connaisseur.
Ouais.
Donc je ne pourrais pas trop dire. Là, je sais que ça doit faire quand même quelques temps que c'est les mêmes. Après, je sais pas comment ça tourne. Je peux rien dire sur le sujet parce que je dirais n'importe quoi.
En tout cas, enfin, à titre personnel, hein, moi je trouve que c'est un peu dommage quand même que la présélection ne soit pas faite par les jeunes lycéens, parce que bah, du coup, c'est le concept, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement abouti. Attention, moi je suis très heureuse pour vous et je trouve que un prix qui est amplement mérité, hein. Mais je ne connaissais pas forcément en fait, le fonctionnement du prix Goncourt. C'est vrai que bon, on a envie que ce soit les lycéens qui font la sélection dès le départ en fait.
Alors en même temps non, parce que justement là tout d'un coup va venir à eux des romans qu'ils n'auraient jamais sélectionnés. Pardon, le mien, il ne l'aurait jamais lu s'il n'était pas dans cette première sélection. Mais je pense même aux autres auteurs qui étaient avec moi pendant cette tournée-là. Voilà, je pense à... Il y a Grégoire Bouillet qui a sorti un immense livre qui devait faire, je ne sais plus moi, 800-900 pages. Je ne pense pas qu'un lycéen serait allé vers ce livre-là.
Et le vôtre, vous pensez aussi que les lycéens ne seraient pas allés vers Beyrouth sur scène ?
Parmi les 400 livres de la rentrée littéraire, non, il y aurait peut-être eu des choses plus accessibles à eux. Et même sur d'autres auteurs. Non, je crois que c'est quand même assez intéressant qu'ils se retrouvent à lire la sélection de personnes qui sont dans le milieu depuis tant d'années. Qui ont un avis quand même sur les livres et la littérature. Tout d'un coup, il y a la littérature contemporaine s'ouvre à eux et non, je pense pas qu'ils auraient choisi ces 15 livres-là au départ. Donc je trouve ça plutôt pas mal et justement, ils découvrent des écritures qu'ils connaissent pas, des voix qu'ils ont jamais entendues, une manière de raconter des histoires qui est différente. Je trouve que c'est bien que ça se passe comme ça.
Ouais, je comprends en tout cas ce point de vue.
Et pour le coup, juste oui. Dans la deuxième partie, c'est vraiment eux qui font le choix parmi les 15.
Oui,
personne ne leur impose quoi que ce soit.
D'accord. Mais justement, parmi les 15, alors du coup, votre livre a été sélectionné. Est-ce que vous savez pourquoi les lycéens ont choisi votre livre ? Qu'est-ce qui leur a plu ?
J'ai compris pourquoi maintenant un peu plus, c'est le fait qu'un fils interroge ses parents déjà, donc il y a la relation fils-parent, enfin voilà, c'est quelque chose qui travaille beaucoup quand t'as 16 ans, 17 ans, 18 ans. Le fait de parler de la guerre, Il y a eu la guerre en Ukraine, enfin il y a la guerre en Ukraine, il y a eu la guerre en Syrie. Ils entendent parler de ça tous les jours, mais voilà, ils n'ont pas vraiment d'éléments de vie comme ça au quotidien. Et moi, je raconte l'histoire d'une guerre, donc oui, qui s'est passée en 75 jusqu'à 90, mais qui répète les mêmes histoires, des histoires d'exil, de massacres, de guerres qui ne s'arrêtent pas. Le fait de parler de la guerre, le fait de parler de l'exil, je crois que l'exil, c'est un sujet qui les habite, c'est normal, c'est le monde qui nous entoure. Je crois que ces trois thématiques-là les ont beaucoup touchés. Je pense, hein, je peux pas l'affirmer, mais apporter un peu des réponses sur des questions qui se posaient. Il y a la question de l'identité aussi, de l'appartenance. Il y a beaucoup de binationaux, ouais, évidemment, en France, et donc qui n'étaient pas franco-libanais. Je crois que j'ai même pas croisé un franco-libanais, mais qui sont franco-syriens, franco-russes, franco-ukrainiens, franco-algériens, enfin peu importe. Et voilà, avec mon livre aussi, c'est une question de se débattre avec comment on se débat avec deux pays, deux identités, quand on est né en France et qu'on a une identité d'ailleurs ou que nos parents viennent d'ailleurs. Je crois aussi que ça les a touchés, puis quand on en parlait aussi lors des rencontres. Quand ils me posaient des questions, quand je parlais de mon expérience, c'était souvent des questions sur aussi mon vécu. Parfois sur le livre, mais beaucoup sur le vécu. Et, ou en tout cas, quand on parlait du livre, je racontais aussi le vécu.
C'est vrai, le fait de rencontrer l'auteur, ouais. Oui, de lui poser des questions. C'est vrai qu'on peut aussi s'attacher à la personnalité de l'écrivain, de celui qui a écrit. Mmh. Ça ajoute aussi quelque chose, effectivement.
Ça change quelque chose. En tout cas, ça donne envie de... Ce qu'ils m'ont dit à la fin, c'est que le choix ne se fait pas sur ça. On leur dit bien qu'il ne faut pas choisir le livre si l'auteur était sympa ou pas, mais par contre ça donne envie de lire le livre. Je sais qu'on est, plusieurs auteurs. Quand on est arrivé, les lycéens n'avaient pas lu notre livre, et après avoir discuté avec eux, ils ont eu envie de lire le livre. Je crois que
c'est comme le cinéma en réalité, hein. Les acteurs peuvent nous donner envie ou pas d'aller voir le film.
Oui, clairement.
C'est exactement la même chose.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Alors j'imagine que vous avez reçu de nombreux messages de félicitations suite à ce prix. Mm-hmm. Quel message vous a le plus marqué?
Non, mais c'est toujours, je dirais, c'est toujours les parents quand même sur cette histoire-là. Les parents, parce que voilà, c'est un livre qui est en hommage à leur vie, et voilà, quand t'annonces à tes parents que t'as gagné ce prix-là, c'est merveilleux pour eux, je crois. Et c'est merveilleux pour moi aussi, parce que je pouvais pas faire mieux comme hommage. Enfin, je pouvais pas aller au-delà de ça, c'était difficile. Donc oui, c'est les messages qui m'ont le plus touché. Après, est-ce que ma mère m'en écrit souvent des messages là tous les jours où elle me raconte comment ça la touche. Là, on a encore reçu une lettre d'un ami de mon père qui a vécu avec mon père pendant 10 ans au travail, etc. Et qui, après avoir lu le livre, donc ils se parlaient plus depuis longtemps. Et donc, il a écrit une lettre, il l'a envoyée au bureau de chez Stock. Et donc, je l'ai lu hier et c'était très émouvant. Il a écrit 5 pages en me racontant que il a retrouvé mon père dans cette histoire, que ça l'a touché. Donc, j'ai apporté ça à ma mère ce matin et elle a commencé à pleurer.
C'est super sympa quand même que les personnes prennent le temps de faire ça.
Oui.
D'écrire un message comme ça de 5 pages, de l'envoyer.
Ah, c'est fou.
C'est quand même...
Ah ouais, de l'écrire à la main. Et c'est très, très beau. Ouais. Et de raconter des anecdotes et de... Non, c'est très touchant. Mais voilà, tous ces messages-là sont très touchants, ceux qu'on reçoit comme ça. Et puis, il y a des messages aussi très touchants au quotidien de personnes qui lisent mon livre et de leur dire qu'ils se sont retrouvés dedans, que ça leur fait du bien, qu'ils ont retrouvé leur histoire, qu'ils ont envie maintenant d'interroger leurs parents et de raconter la leur. Ça m'importe beaucoup. Le fait de donner envie d'écrire, donner envie de raconter, donner envie d'interroger, donner envie d'être curieux. J'écris pas pour ça, mais c'est vrai qu'une fois que je publie le livre, si... cette envie, cette passion que j'arrive à la transmettre à travers mon travail, mes écrits ou des expos que je fais, c'est un accomplissement énorme. D'ailleurs, tout comme avec les lycéens, d'ailleurs, je sais qu'il y a des lycéens qui, après avoir lu ce livre ou après m'avoir rencontré, ont envie d'interroger leurs parents, de s'y mettre, de se mettre à écrire, et ça, c'est le plus beau des cadeaux, je trouve.
Alors, les messages de vos parents vous ont énormément touché, ce que je peux totalement comprendre, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'il y a des mots comme ça qui vous ont particulièrement marqué?
Oui, mon père m'a appelé une fois pour me dire qu'il était fier de moi. Un père arabe, il dit pas tous les jours qu'il est fier de son fils. Donc, c'est assez marquant. C'était après m'avoir écouté dans un entretien à la radio, d'ailleurs. Il me disait, il y a des écrivains qui disent n'importe quoi et d'autres qui ne disent pas n'importe quoi, tu fais partie de la deuxième catégorie. Et donc il était fier. Et ma mère, il n'y a pas un mot en particulier. Mais alors ça, c'était drôle. C'était pas. Donc après avoir gagné le prix Goncourt des lycéens, il y a eu une campagne de com de la maison d'édition où ils mettaient mon affiche un peu partout dans Paris avec le livre, etc. Donc pour faire vendre le livre, c'est de la promotion. Mais je sais que ça a beaucoup ému ma mère et qu'elle m'a envoyé des messages par WhatsApp, dont je me souviens plus exactement, mais je sais que je les ai partagés tout de suite sur Insta en mettant ce l'affiche, justement, parce que c'était très touchant. Et d'ailleurs, il y a une femme, c'était très touchant parce que c'était très sincère de sa part. C'était vraiment une revanche sur la guerre. Vraiment, on a senti qu'il y avait une sorte de réconfort tout d'un coup de voir que son histoire, au-delà de son fils, je crois que son histoire était mise en avant dans Paris quelque part, qu'on entendait enfin sa tristesse ou l'exil de 15 ans ou l'exil de 45 ans ou voilà, que finalement elle était consolée grâce au succès de ce livre-là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une auteure qui a fait partie du prix Goncourt des lycéens, qui était forcément un peu déçue de ne pas avoir gagné, qui, en fait, m'a écrit un message juste après avoir lu les messages de ma mère. Elle-même, elle est mère, cette auteure. Et elle me disait, en fait, je trouvais ça trop beau. Le fait que ta mère dise ça et que tu gagnes ce prix-là, toi, avec cette histoire-là, il y a quelque chose de vraiment très, très beau. Et c'est vrai, et je le ressens vraiment au quotidien avec ma mère.
Alors Sabine, votre livre « Beyrouth sur scène » est une belle déclaration d'amour à vos parents. Et j'aimerais justement citer un passage qui m'a particulièrement marqué. « Je ne sais pas si je le fais exprès ou non, mais Alma a raison. Je leur ressemble de plus en plus et je m'en réjouis. Ils ne me quitteront plus jamais. Même après leur décès, je n'aurai qu'à me regarder et à m'écouter pour les retrouver dans mes gestes et mes mots. Ils continueront à vivre en moi. » Ça, c'est un passage qui m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé extrêmement touchant venant de la part d'un enfant. Est-ce que vous redoutez ce moment où vous allez perdre vos parents ?
On redoute tous ce parent, ce parent, n'importe quoi. On redoute tous ce moment. On le redoute tous, oui, c'est une question que je me pose. Comment je ferai le jour où ils ne seront plus là ? Y a quelque chose qui se brise dans la vie quand même. Et puis là, en plus, au moment où j'écrivais ce livre-là, il y avait le Covid. Donc en plus, il y avait une sorte de... On était paniqués pour nos parents quand ils étaient un peu fragiles. On avait l'impression qu'on allait tous les perdre. Donc ça décuplait en plus cette peur-là. Et donc ouais, je crois qu'on essaie de se rassurer par des petites choses, et je crois que cette phrase-là, oui, ça m'a rassuré. Un jour, je me suis dit, quand elle m'a dit ça, elle me l'a vraiment dit, ma compagne, en sortant d'un dîner de chez eux, et ça m'a apaisé un peu. Je me suis dit, effectivement, comment on fait quand tes parents sont plus là? Je me suis dit, t'auras qu'à te regarder dans le miroir, tu les retrouveras un peu. Et il y a quelque chose de rassurant. Alors, je dis ça parce qu'ils sont encore là. Peut-être le jour où ils seront partis, cette phrase, c'est du vent. Peut-être ça marchera pas du tout. Mais il y a quelque chose d'apaisant dans ce constat.
À part flatter votre ego, que je mets ça bien entre guillemets, ça change quoi de recevoir le prix Goncourt au quotidien pour vous?
Là, c'est un moment de promotion, concrètement. Une fois qu'on gagne le concours des lycéens, la vie d'écrivain change. On rentre dans une sorte de spirale qu'on connaissait pas vraiment avant, où on a beaucoup plus de rencontres en librairie, en salon, des entretiens. Ouais. Effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de messages aussi sur les réseaux, et moi, je fais plutôt partie des auteurs qui aiment bien répondre aux gens, en tout cas le plus possible. On peut pas leur répondre tout le temps, mais donc voilà, ça demande beaucoup de sollicitations. Et puis ça change la vie d'écrivain.
Et pourquoi vous n'êtes pas passé avec Antilope?
Le troisième?
Ouais.
Parce que je voulais vivre un peu plus de ma plume, justement, aller chez un plus grand éditeur qui est un éditeur de littérature généraliste me permettait de pouvoir gagner un prix comme celui-là. Voilà, oui. Avec l'Antilope, on n'aurait pas pu gagner le prix Goncourt des lycéens, ou être mis sur une liste de grands prix, par exemple, où on aurait moins de diffusion. Mais c'est normal parce que c'est une petite maison. Mais par contre, je suis très heureux d'avoir commencé avec une petite maison. J'ai été très bien entouré avec des gens qui étaient vraiment aux petits soins, avec qui je garde une relation merveilleuse encore aujourd'hui. Et c'était une merveilleuse école pour justement sortir ce livre-là chez Stock et savoir comment les choses marchent, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit parler, me préparer aussi pour les entretiens. J'ai pu faire quelques entretiens pour mes deux livres et ça m'a bien préparé pour ce troisième.
Donc en tant qu'auteur, passer avant, d'abord au départ par une petite maison d'édition, c'est la meilleure école?
Moi, je trouve une petite moyenne pour commencer, c'est très bien.
C'est mieux.
Sauf si on est une grande star.
Pour se faire la main un petit peu.
Je trouve ça bien. Oui, puis on a un vrai accompagnement. Enfin, j'avais des éditeurs très concernés. Donc, même par rapport au texte, il y a un temps qui est pris. Stock, je ne sais pas combien de livres ils sortent par an, mais en tout cas, je crois que c'est plus de 40, plus de 50. Mes anciens éditeurs, c'est 5 livres. Donc on peut prendre le temps sur 5 livres de rentrer dans les détails du texte, de même de la promotion, d'expliquer, de raconter. Donc c'est bien d'être accompagné parce qu'on rentre dans un milieu qu'on connaît pas, qui a ses propres codes. Et donc je trouve ça bien. En tout cas, moi j'avais 27 ans ou 28 ans quand j'ai sorti mon premier. C'est jeune pour un livre et c'est bien d'être accompagné à ce moment-là.
Alors Sabine, je vous propose de passer à la prochaine étape. Je vais vous proposer de faire le test de cocologie. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Cocologie, en fait, c'est une méthode de psychologie qui est très populaire au Japon et qui utilise des questions et des tests de personnalité pour explorer un petit peu plus l'esprit, le mental, la personnalité, justement, de manière ludique. D'accord ?
D'accord.
Donc, je vais vous poser des questions, ouais. Vous allez y répondre en faisant vraiment appel à votre imagination, ce qui ne devrait pas être très compliqué hein, pour un écrivain. Et après ça, on verra les résultats, justement, de ce test.
Okay.
C'est parti ?
Oui.
Très bien. Dans un premier temps, Sabine, je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà. Et d'imaginer que vous êtes dans un désert immense, un très grand désert où il n'y a absolument rien. Et au loin, vous apercevez un cube. Est-ce que vous le visualisez bien, ce cube ?
Oui.
Je vais vous demander de me le décrire, ce cube, de me décrire un petit peu sa taille, en quelle matière il est, et quelle distance il est de vous, ce cube.
Je dirais qu'il y a le soleil qui brille dessus, donc je vois qu'il est en train de briller un peu. Je l'imaginerais, étrangement, j'imaginerais un cube comme les cubes avec lesquels on joue, là, je ne sais plus comment on les appelle.
Rubik's Cube m'est...
Ouais, exactement.
Rubik's
mais,
Cube, ouais.
Ouais, une sorte de grand Rubik's Cube comme ça, mais avec des petits carrés en miroir, totalement en miroir, comme si on pouvait tout voir à travers, et avec le soleil qui se reflète, ouais. C'est comme ça que je le verrais.
Avec le soleil assez qui se reflète.
Dessus et assez grand, très grand, beaucoup plus grand que nous en tout cas.
Très bien. On va passer à la prochaine question.
Je garde les yeux fermés.
Oui, c'est mieux en tout cas pour pouvoir imaginer. Donc d'accord. Vous avez votre joli cube, vous l'avez très bien décrit d'ailleurs. Maintenant, vous allez imaginer une échelle qui se tient juste à côté de ce cube. Donc à nouveau, je vais vous demander de visualiser cette échelle et de me la décrire. Elle est faite en quelle matière ? Quelle est la taille de cette échelle ? Et comment elle est située surtout par rapport au cube ?
J'hésite entre deux échelles. Une qui, je crois, m'amuserait beaucoup, c'est, je sais pas moi, quelque chose en bambou, très simple, mais qui serait une très très grande échelle qui montrerait jusqu'au ciel. Et en même temps, j'en imagine une deuxième qui est tout l'inverse, qui serait, je crois, même d'ailleurs, une sorte de petit escabeau que j'ai à la maison en bois, je crois que c'est un escabeau IKEA, posé comme ça, sur lequel je monte de temps en temps pour aller récupérer des livres qui sont un peu plus hauts. Et celui-là, le petit, je l'imaginerais comme ça, donc face à moi. Je sais pas comment le dire par rapport au cube, mais donc il est posé contre le cube, et celui en bambou, quelque chose un peu en diagonale. D'ailleurs, je vois pas trop comment il tient.
Celui en bambou est plus grand, c'est
il
ça
est immense, il va jusqu'au
il
ciel.
Il est immense. Ouais. D'accord, très bien. On continue, donc on a le cube, on a l'échelle. Et d'un coup, dans ce désert qui était à la base totalement vide, hein, je le rappelle, surgit un cheval. Donc vous allez suivre du regard ce cheval, vous allez l'observer tout doucement et me dire à quoi il ressemble.
Il est blanc. Il est blanc mon imagination bloque totalement sur ça. Il est blanc, mais je crois qu'en fait il est figé. Je crois que j'imagine une photo là, maintenant que vous m'avez dit un cheval. J'imagine sur une photo, je l'imagine complètement à l'extrême droite de la photo. Il va arriver, on est en train de le voir arriver. Il va traverser, mais on ne sait pas par où il va passer. On ne sait pas s'il va passer devant, derrière, à gauche, s'il va aller très vite, très lentement. Je le vois figé comme ça à l'arrêt en train d'attendre.
Il est à quelle distance par rapport à vous ?
Il est loin. Les deux sont très loin.
D'accord. Vous pouvez réouvrir les yeux, Sabine, si vous êtes plus à l'aise pour les prochaines étapes. Alors, maintenant, je vais vous demander d'imaginer des fleurs dans ce désert.
Ah oui.
Et de me dire quelle sorte de fleurs c'est. Encore une fois, je vais faire appel à votre imagination. Hein. Combien y a-t-il de fleurs ? Quelles sont ces fleurs-là, si vous les connaissez ? Les couleurs ? Voilà, me dire un petit peu tout ce que vous pouvez me dire, en fait, sur ces fleurs-là.
Là, je vais être directement inspiré d'une série photo que je viens de voir, en plus. Je crois qu'il est sur les fleurs. C'est une photographe qui a photographié en Inde des fleuristes. Et en fait, il y a beaucoup de fleurs sur ces photos. J'ai trouvé ça merveilleux, une sorte de mélange de couleurs incroyable. Et là, je suis parti sur une photo, voilà. Donc, j'ai transformé cette réalité sur
fleurs.
Une photo. Et en fait, j'ai l'impression que les fleurs sont partout. Sont partout sur l'image. Elles sont même dans le ciel. Elles viennent presque couvrir le cheval, le cube, les échelles.
Oui.
On arrive encore à les voir. On voit encore tous les éléments. Mais il y a des fleurs et de toutes les couleurs. Je ne vais pas en citer une en particulier, mais je vois du jaune, du rose, du vert, du orange. Mais quelque chose qui couvrirait vraiment plus le ciel et la hauteur de la photo, mais on voit toujours le désert et le sable en dessous.
D'accord, très bien. Vous décrivez super bien en tout cas. Enfin, dernière question. Tout d'un coup, une tempête éclate dans ce désert. Alors que se passe-t-il justement ? Est-ce que c'est une tempête que vous voyez au loin ? Est-ce qu'elle est proche ? De quelle couleur est le ciel ? Est-ce qu'il pleut ou pas ? Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce que vous imaginez ?
J'ai l'impression qu'avec la tempête, tout s'en va sauf les fleurs. Le sable va partir dans tous les sens, va couvrir le cube, le cheval va sûrement partir au loin, essayer de se réfugier quelque part, les échelles vont disparaître, et il va rester des fleurs, et ce désert complètement brouillon.
D'accord.
Qui vient vivre une tempête.
Seules les fleurs, en fait, résistent à cette tempête.
Ouais.
Très bien. Mais écoutez, est-ce que vous êtes prêts, Sabine, à découvrir le résultat de ce test de cocologie?
Oui. Mais c'est comment? C'est une application? Comment ça se passe?
Non, c'est moi qui vais vous donner
les
significations.
Ah,
voilà, selon ce que vous dites. Alors évidemment, tout est à prendre.
Oui.
C'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, c'est vraiment de l'interprétation. Je vais avoir la mienne, vous allez avoir la vôtre. Peut-être que même les personnes qui nous écoutent et nous regardent auront leur propre interprétation. D'ailleurs, j'ose espérer que vous avez aussi joué en même temps que Sabine, ça serait quand même plus sympa. C'est parti pour le résultat. Donc en fait, le cube, Sabine, il symbolise votre ego.
Ouais, oh putain.
Donc vous m'avez dit que c'est un grand cube, vous avez bien appuyé sur le mot grand, hein, qui brille et qui est transparent.
Oh mon Dieu, quelle horreur.
Donc s'il est grand, s'il est large, c'est pas forcément péjoratif, hein, ça veut dire que vous avez une grande confiance en vous, une grande estime de vous en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même tout de même transparent. Parce que vous m'avez dit, c'est comme un Rubik's Cube. Moi, je pensais qu'il était coloré, du coup. Mais il est transparent. Donc, vous avez confiance en vous, mais en même temps, vous laissez quand même apparaître certaines choses aux yeux du monde. Vous n'êtes pas non plus renfermé sur vous-même. OK ? L'échelle.
Non, j'ai dit qu'il était un miroir.
Non, c'est vrai. Vous avez dit que c'était un miroir, donc ça reflète.
Ouais.
D'accord.
Donc, justement, on ne peut pas pénétrer dans la personne.
Comment vous interprétez ça, alors, justement ?
On ne peut pas pénétrer dans la personne, justement.
Ouais.
On a peut-être un miroir de soi quand on me regarde, je ne sais pas. Je sais pas.
Est-ce que vous trouvez que ça correspond bien ?
L'immense ego, non.
L'ego de Sabine.
La confiance, oui, j'ai confiance en ce que je fais. Et après, c'est quelque chose qui se perd et qui se gagne quand je travaille tout le temps. Il y a des moments où on a confiance, des moments où justement on a l'impression d'être complètement nul. Et c'est un espèce de va-et-vient permanent. Après, si, oui, j'ai quand même assez confiance en ce que je fais en tout cas. Je crois assez en ce que je fais.
C'est pour ça que je vous dis, hein, l'ego, c'est pas forcément péjoratif.
Oui, bien sûr,
hein.
Je sais.
C'est vraiment le niveau
c'est
de confiance
drôle
qu'on
de
a
découvrir
en soi.
Comme ça.
Alors, vous êtes prêts à découvrir ce que c'est l'échelle ?
Oui.
Donc, l'échelle représente votre famille et vos amis.
Oh.
Et donc là, c'est marrant parce que vous m'avez parlé de deux échelles.
Ouais.
Une en bambou qui est très, très grande.
Ouais.
Et une autre plus petite, plutôt un escabeau qui est posé.
Ouais.
Comment vous l'interprétez, ça, du coup ?
Je sais pas, mais c'est assez joli. Je crois que c'est ça. Je suis très social comme garçon. Donc, en fait, je pense que je me fais très vite ami avec des gens. Donc, j'ai un grand réseau de personnes avec qui je m'entends très bien. Et en même temps, les personnes les plus proches...
Le noyau dur.
Ouais, le noyau dur, il dépasse pas 10 personnes, je pense.
Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, l'interprétation. C'est que quand l'échelle est posée comme ça sur le cube, c'est que vous êtes proche de votre famille, de vos amis. Et je me souviens que les deux échelles étaient quand même assez proches du cube.
Ouais.
Et donc, oui, la grande, c'est que vous avez quand même un grand cercle de connaissances et d'amis. La petite, c'est votre noyau dur. Mmh. Donc c'est plutôt pas mal, hein, jusqu'à maintenant. Je trouve que les interprétations vous correspondent plutôt bien, en fait. Est-ce que vous êtes prêt à découvrir le cheval ?
Oui.
Eh bien, le cheval, figurez-vous qu'il représente Alma.
Oh.
Autrement dit, votre partenaire.
Ah, oh, c'est beau.
Donc vous m'avez dit, c'est un cheval blanc que vous voyez en photo.
Ouais.
C'est ça. Il passe, mais en même temps, il est très loin.
Ouais.
C'est ça.
Très calme, aussi.
Et très calme.
Mmh.
D'accord. Donc voilà, ça représente un petit peu l'image, en tout cas idéale, que vous vous faites de votre conjointe, qui est calme, qui a une certaine prestance, qui est belle, puisque vous avez fait un beau cheval blanc.
Mmh.
C'est une photo comme ça, donc un arrêt sur image un petit peu, et qui passe, qui est là, mais sans forcément prendre trop de place, mais qui est là.
Non, c'est vraiment, c'est la description parfaite.
Ah bah parfait. Les fleurs, à votre avis, ça symbolise quoi, les fleurs ?
Je
vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de fleurs. Hein.
Oui.
Alors, j'ai
un peu peur maintenant.
Alors, les fleurs, elles symbolisent vos enfants.
J'en veux pas 50. Mais si, j'aimerais en avoir 50.
Vous aimeriez avoir beaucoup d'enfants, c'est vrai ?
Non, mais les grandes familles, oui. J'ai grandi dans une grande famille. Alors, nous, on n'était que deux, mais voilà, on avait été avec les cousins, les oncles, les tantes. J'ai grandi les étés avec des maisons. On était, voilà, plus d'une vingtaine, plus d'une trentaine. Et même à la maison, il y a toujours beaucoup de monde. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui me parle beaucoup.
En tout cas, le nombre de fleurs, c'est vrai, correspond au nombre d'enfants que vous désirez.
Non.
Donc là, vous m'avez quand même dit beaucoup.
C'est génial.
Hein. Vous voulez combien d'enfants, vous, dans l'idéal ?
Maintenant, je vais dire 1500.
50. Très coloré. Donc peut-être
c'est génial.
des enfants différents avec différentes personnalités. C'est comme ça un peu que je l'interprète.
Non, on va pas dire ça. Non, ça va pas lui plaire. non, je sais pas combien d'enfants je veux. Je crois qu'un, ça serait un peu triste. Donc deux, et puis pourquoi pas trois. Mais après, je sais pas vraiment. Et puis c'est pas moi qui décide, c'est Alma.
Alors il y avait aussi une autre interprétation que j'avais vue, c'est que les fleurs symbolisent vos enfants dans un premier temps. Et je crois que ça peut aussi symboliser vos projets, autrement dit vos livres aussi.
Ah oui,
puisque
alors
vous
les
êtes
projets,
un écrivain.
Oui. Alors oui, maintenant ça m'étonne pas qu'il y ait autant de. Oui, j'ai envie de faire plein de projets. Beaucoup, 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 beaucoup de projets.
Donc c'est quelque chose qui fait sens en tout
oui,
cas.
Oui, non, alors quand j'ai dit des fleurs partout, il n'y a plus que les fleurs qui restent d'ailleurs à la fin, ça m'étonne pas.
C'est ça justement, on va passer à la suite pour la tempête. Donc la tempête, elle représente vos peurs. Vous m'avez dit qu'il y a du sable partout, c'est quand même une grosse tempête hein, qui éclate. Par contre, il reste les fleurs à la fin. Mmh. Comment vous interprétez ça?
Et puis j'ai dit Alma par se réfugier, c'est rigolo.
Enfin, oui, le cheval. Le cheval par se réfugier.
Oui. Bah, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'est ce qui reste après nous, les livres, ce qu'on a créé, les expositions. Il n'y a plus que ça qui reste. Une fois qu'on meurt, c'est terminé, il n'y a plus rien d'autre. Et non, ça ne m'étonne pas, je pense que c'est ce que je mets au-dessus de tout. Les livres, le cinéma, la photo, l'art de manière générale, je le mets au-dessus de tout. Donc ça ne m'étonne pas que je garde ça à la fin.
Et les enfants. Comment vous avez l'habitude de gérer le stress, justement, l'anxiété, les peurs qu'on peut tous avoir hein, au quotidien?
Oh, je les gère très mal. Je fais comme je peux. Parfois, écrire, c'est gérer son stress, gérer son mal-être de manière générale. Se réfugier dans la photo, etc. Je sors marcher, si on doit vraiment dire concrètement.
Ouais.
Quand il y a un moment où je sens que j'y arrive plus, j'ai besoin de sortir marcher. Et puis je pars. Ça peut durer une heure, deux heures, trois heures, je sais pas trop où je vais, peu importe, je peux me perdre. Et d'ailleurs, j'aime bien me perdre parce que tout d'un coup, tu te retrouves quelque part que tu connaissais pas ou tu t'attendais pas de tomber sur cette personne. Ou, voilà, le hasard de la marche, j'aime beaucoup. Puis Paris, j'habite à Paris, donc en plus Paris permet de marcher, de passer d'un quartier à l'autre très facilement. Mais c'est intéressant, non mais c'est intéressant ce jeu-là. Comment vous appelez ça, la cocologie?
Cocologie, tout à fait.
Ouais, non, sur les fleurs, c'est marrant parce qu'en plus au tout début, quand vous me parlez de la jeunesse, je disais qu'il y a que la jeunesse, c'est les seuls en qui je fais confiance.
C'est vrai, c'est vrai.
Et finalement, là, dans ces fleurs-là, on dit qu'il n'y a plus que les enfants que je garde, donc en fait, ça m'étonne pas trop. Ouais.
Et comment vous interprétez le cheval qui est loin de vous? En l'occurrence, là, c'est Alma, votre conjointe, qui était quand même assez loin, hein, située en termes de distance avec le cube.
Parce que parce qu'elle sait particulièrement, elle travaille dans la musique, elle sait particulièrement ce que c'est un artiste, et que c'est très très chiant un artiste, et qu'il a besoin de son espace, et Alma ne me pose pas beaucoup de questions, elle sait que parfois je suis dans mon monde, parfois elle
oui,
me regarde et elle me dit « t'es vraiment bizarre ». Oui, oui, mais c'est vrai qu'elle a une distance où elle me laisse avoir mes délires, en fait, j'ai pas d'autres mots, mais elle sait, parce qu'elle a été musicienne, elle travaille avec beaucoup de musiciens, elle a toujours navigué dedans, donc elle connaît, elle sait comment ça marche, et elle me laisse une grande liberté par rapport à ça, elle comprend, si moi je dis j'ai besoin de ça, je veux plus entendre personne, elle comprend, il y a rien qui la chagrine là-dedans. Et ça, c'est une chance énorme.
Ouais, c'est clair.
Ah, vraiment immense.
En tout cas, merci beaucoup Sabine d'avoir joué le jeu. Sachez que c'est une première hein, dans le Manal Show, c'est la première fois que je propose ce test de cocologie à mon invité.
Oui.
Donc vous êtes un petit peu le cobaye.
Oui.
Et vous en êtes plutôt bien sorti.
Ça va. Maintenant, je suis curieux de voir les autres qui vont répondre.
C'est ça. Le problème, c'est bon, si on commence à regarder jusqu'au bout,
on va
peut-être se laisser un petit peu influencer. Alors, Sabil, en plus d'être auteur, vous êtes également journaliste. Est-ce que vous pensez que la diaspora libanaise en France a du pouvoir, peut-être écouter?
Alors, par qui? Par les politiciens, par le public,
par les
Libanais.
Par les personnes qui prennent les grandes décisions. Parfois, ce ne sont pas forcément que les politiciens, on le sait bien.
Ouais. Je sais que la diaspora libanaise, en France et ailleurs, est quand même plutôt bien positionnée. Et donc, on est là, on a des postes, certains ont des postes influents. Oui, elle est là, elle se fait entendre, elle peut se faire entendre. Elle a les moyens de se faire entendre. Je crois que c'est une diaspora qui peut se faire entendre. C'est en plus une diaspora, c'est surtout celle en France, qui est arrivée en France, qui est souvent très cultivée, qui a souvent fait des études, où il y a des artistes. Enfin, voilà. C'est des gens qui sont en position de pouvoir, on va dire, ont un certain pouvoir, donc ils peuvent se faire entendre. Donc, on a les moyens, et il y en a qui le font. Il y en a qui le font très bien, d'ailleurs.
Vous n'avez pas de frustration, en tout cas, de ce côté-là?
Moi, j'ai une frustration de rien pouvoir faire pour le Liban, d'être impuissant face à ça, de ne pas savoir quoi faire. Clairement, à part de temps en temps faire des petites choses, mais j'ai une frustration de rien pouvoir changer là-bas. Pas qu'on n'en fasse pas assez ici, mais vraiment d'être totalement impuissant face à la crise économique, face, euh,
à la double explosion du port. On a envie de savoir pourquoi ça s'est passé. On a l'impression qu'on ne le saura jamais et qu'on ne pourra jamais rien faire. On sait pas comment faire avec ça. Et sur ça, j'ai une grande frustration.
En tout cas, vous écrivez, et c'est déjà beaucoup.
Oui.
J'aurais juste une question aussi par rapport à ça. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous enfermer en quelque sorte dans la même thématique, qui est toujours le Liban ?
Non, parce que le prochain livre que j'écris ne traite pas du Liban, et qu'après je vais y revenir, mais autrement, à travers l'histoire d'un personnage historique qui a traversé plusieurs pays et plusieurs histoires. Non, moi j'ai pas cette peur-là, parce que je sais qu'en moi il y a plein d'autres histoires et plein d'autres pays et plein d'autres curiosités. Il y a des choses, je pense, qui seront toujours là. Je crois que la question de l'exil, c'est quelque chose qui me travaille tout le temps,
ouais.
Quel qu'il soit, d'ailleurs, libanais ou autre. Donc voilà, c'est des choses qui vont toujours rester, je crois, dans mon travail, d'une manière ou d'une autre. Et l'exil, ça s'exprime de mille façons différentes. Mais non, j'ai pas du tout peur de ça. Après, oui, ce qui est possible, c'est qu'on me mette cette image-là. Mais bon, ça, c'est pas nous qui choisissons. Donc.
Alors, pour finir sur une belle note qui m'a beaucoup touchée, j'aimerais lire un passage du livre qui m'a marquée. Je cite... Mes parents me racontent presque uniquement leurs mauvais souvenirs. Les attentes, la prise d'otage, le mal du pays. Pourtant, lorsque j'observe l'album de famille que ma mère a composé, je ne vois aucune trace de guerre, d'attentat, de malheur sur les images. Si quelqu'un les feuillette, on croirait à une vie idéale, faite de soleil, de repas, de famille et de fleurs. Moi, j'ai l'impression que justement, vos parents souhaitaient que vous ne vous souveniez uniquement que de belles choses. Bon, bah, c'est un peu raté, là, avec la sortie du livre.
Bah, c'est raté d'être depuis le début, ça. À partir du moment où je sais pourquoi ils sont arrivés à Paris, c'était raté. Sauf que c'est vrai que c'est beau de se dire qu'inconsciemment, ma mère, quand elle crée un album de famille, bah, y a pas une photo de guerre, y a pas une photo de drame. On a l'impression que c'est une famille totalement normale, intégrée, qui vit là depuis des années et qui est noyée dans le bonheur.
Et quand on pose les questions, le choc, on se dit, mais
ouais,
d'accord, c'est pas du tout ce à quoi j'ai pensé.
Puis même quand on fouille dans les cartons, parce que j'ai retrouvé les pochettes avec les photos de guerre, les photos de
Qui sont cachées dans les cartons.
Ah ouais, cachées, déchirées. Je les connaissais pas du tout. Les albums, je les connais depuis très longtemps. Mais ces pochettes-là, je les ai découvertes il y a 2 ans, il y a 3 ans, au moment de l'écriture du livre. Elles étaient vraiment cachées au fin fond. Je savais même pas qu'ils avaient pris ces photos.
Mais moi, je trouve ça très touchant parce qu'on sent vraiment que votre maman veut vous préserver au maximum pour que vous ne gardiez que les bons souvenirs, les choses positives. Et voilà, c'est touchant venant de la part d'une maman.
Ouais, là, même des parents, le père aussi. Mais je comprends qu'on n'ait pas envie de raconter. Je pense à un jeune Syrien qui est arrivé là, que j'ai rencontré lors du concours des lycéens, qui est donc un jeune lycéen qui est arrivé en France il y a 5 ans à peu près, et donc qui a fui la guerre avec ses parents, mais donc qui connaît rien sur la guerre, et il est venu me dire, mes parents me racontent rien, ils veulent rien me dire. Et en même temps, je comprends, on protège son enfant, on n'a pas envie de lui raconter les crimes, les massacres, les horreurs, l'exil, l'enfer, enfin on n'a pas envie de lui dire
ça.
Et
puis comment raconter ?
Et puis quel
mot ? Ouais.
C'est très difficile.
Des fois, il n'y a pas les mots en fait.
Non, il faut quelques générations parfois pour pouvoir les raconter.
Ouais. Bon, Sabil, ce n'est pas totalement fini, j'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
C'est parti ! Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ?
Mon café.
Quel est le dernier livre que vous avez lu ?
Je suis en train d'en lire un pour une chronique dans un journal libanais qui s'appelle Revenir.
Quelle est votre dernière folie financière ?
Une veste.
Est-ce que vous croyez en Dieu ?
Non.
Une chose que vous aimez beaucoup chez vous ?
C'est compliqué ça. Pas grand-chose. L'humour.
Et une chose que vous détestez ?
Je suis très triste quand même.
Quelle est la première personne que vous appelez pour célébrer une bonne nouvelle ?
On m'accompagne.
Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime ?
J'essaie d'aller à la mer.
Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ?
Boire.
Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ?
De travailler tous les jours à l'écriture.
Et le pire conseil que vous n'auriez jamais dû suivre ?
Celui de mes parents de faire des études de droit.
Qui est la dernière personne avec qui vous avez parlé avant cet entretien ?
Je crois que c'est une amie au Liban.
Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ?
Parfois l'humour.
Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer?
Pareil, de pouvoir aller à la mer de temps en temps.
Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose d'illégal?
Probablement au Liban. Après que j'étais au Liban, j'ai dû faire quelque chose d'illégal.
Quel est votre plus grand regret?
De ne pas avoir ramené mes parents vivre au Liban.
Si vous aviez 100 euros et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous?
Je suis un très mauvais investisseur. Je les claquerais tous. Je pense que j'inviterais quelqu'un à dîner ou des amis. Je dépenserais tout en une seconde.
Quelle est votre Madeleine de Proust? Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance?
L'odeur de la mer.
Quelle est pour vous la meilleure adresse à Beyrouth?
Mon village. Je passe mon temps à dire en rigolant à tout le monde que mon village est le plus beu des villages. Donc, Kfar Abid.
Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité?
Persévérant, je crois.
Et selon vous, quel est votre plus grand défaut?
Un peu trop hyperactif.
Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir?
Je prends ma compagne dans mes bras.
Merci beaucoup, Sabil, d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci, c'était un plaisir. Alors, comment vous êtes senti pendant cette partie question rafale?
Mais très très bien, comme à la maison.
Comme à la maison? Ouais. Ça fait plaisir, ça va. C'est chaleureux,
oui, oui, c'est
tranquille, c'est
très
chill.
Bien. Je conseille à la ministre de la Culture de venir.
Alors, vous m'avez donné votre adresse préférée à Beyrouth. Moi, j'aimerais bien aussi une adresse culinaire.
À Beyrouth?
Ouais, où est-ce qu'on mange super bien?
J'aime bien le restaurant, c'est pas qu'on mange super bien, c'est qu'on mange bien, mais l'ambiance y est bien, ça s'appelle Méziane. C'est un restaurant où on finit par danser à partir de minuit, qui est dans le quartier de Hamra, à Beyrouth.
Très bien, c'est noté, on partagera tout ça avec les auditeurs. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver?
Sur les réseaux, sur moi je sais pas, mais sur mon travail je dirais sur les réseaux sociaux et sur Insta maintenant, j'essaie de publier au maximum de choses.
D'accord, donc vous êtes connecté, c'est bon.
Oui, je suis connecté.
Pas encore sur TikTok, mais vous êtes sur Insta.
On essaye de me convaincre.
On peut vous contacter directement en fait en message privé, c'est ça?
Sur Insta?
Oui.
Oui, oui, généralement je réponds, sauf quand c'est en message, je sais plus comment on dit. Les messages cachés là.
D'accord.
Ceux qu'on oublie là, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ceux-là.
Et je rappelle évidemment votre livre « Beyrouth sur scène ». Paru aux éditions Stock, que je recommande vivement. Vous savez, Sabil, moi, j'ai plus l'habitude de lire ce genre de livres. Avant, je le faisais beaucoup.
C'est quoi mais depuis ce genre de livre?
Des romans, en fait. Avant, je le faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et puis, ces dernières années, je lis beaucoup de livres non-fiction, des livres pratiques pour apprendre dans différents domaines, la psychologie, la négociation, la communication, des choses comme ça. Pas mal de thrillers aussi, pour un petit peu m'évader le soir. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à revenir. À ce type de livre-là, et en particulier Beyrouth sur scène, parce que, honnêtement, j'étais en immersion totale, j'avais l'impression d'être au sein de votre famille avec vos parents. C'est à la fois touchant, c'est à la fois drôle, mais franchement, c'est quand même très très drôle.
Merci.
J'ai souri quand même beaucoup. Merci. Tout au long du livre.
Ça me fait plaisir.
Bravo pour l'écriture, parce que je sais ce que ça demande d'écrire un livre, c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile, c'est long. Donc bravo pour ça, bravo pour le prix. Je vous souhaite beaucoup de succès.
Merci.
Dans tous vos futurs projets.
Merci beaucoup.